Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec à la une aujourd'hui, 24 février, la guerre en Ukraine. 3 ans d'une offensive totale de la part de la Russie et pour l'occasion, RFI est à Kiev pour une édition spéciale juste après le journal de midi, temps universel avec nos envoyés spéciaux, nos invités et notre correspondante en Ukraine que nous appellerons aussi dans quelques minutes pour parler du quotidien des Ukrainiens, de l'usure de la population.
Je pense que tout est très compliqué. J'aimerais espérer le meilleur, mais je vais juste devoir y croire. C'est nécessaire, mais je ne suis pas politicienne.
La difficulté à rester confiant dans un contexte de très grande incertitude sur l'aide occidentale, monnayée par Donald Trump en ce qui concerne les États-Unis, qui discutent déjà avec Vladimir Poutine. On en parlera à partir de 13h, temps universel. Une aide floue aussi du côté européen. Le président ukrainien attend plus. Il l'a répété encore ce matin, vous l'entendrez. Faire plus pour l'Ukraine, c'est ce qu'avait défendu pendant toute sa campagne électorale celui qui va devenir le nouveau chancelier en Allemagne. Friedrich Merz est arrivé en tête des élections d'hier. On appellera dans quelques minutes notre correspondant à Berlin et nous verrons avec notre invité comment une coalition de gouvernement peut prendre forme après une campagne très dure et dans un contexte politique marqué par la montée frappante des partis populistes et de l'extrême droite. Nous irons également aux États-Unis où l'administration poursuit sa guerre contre les fonctionnaires. Les licenciements s'enchaînent, y compris dans la santé publique, ce que dénoncent les employés des centres de santé CDC.
Les gens ont choisi de travailler dans la santé publique pour aider les citoyens à mener une vie plus saine. On ne prend pas parti politiquement, on n'est ni républicain ni démocrate, on veut juste la mise en place de programmes de santé efficaces.
Reportage de notre correspondant à Atlanta à écouter tout à l'heure dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. L'Allemagne, au lendemain des élections, des législatives anticipées, sans grande surprise par rapport à ce que prévoyaient les sondages, mais qui font apparaître des changements inédits. Une victoire, mais avec un score assez faible, 28% des voix pour les conservateurs, la CDU-CSU, un résultat jamais vu pour l'extrême droite populiste de l'AFD, 20%, et un effondrement des sortants, sociaux-démocrates en tête, puisque le parti du chancelier Olaf Scholz n'obtient que 16% des suffrages. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Le chef de file des conservateurs, Friedrich Merz, va donc devoir former une coalition. Il vise, lui, un accord de gouvernement avant la mi-avril. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler, Pascal ?
Bien, la solution privilégiée déjà avant les élections, puisque les résultats étaient attendus, reste d'actualité. Les chrétiens démocrates devraient négocier avec les perdants, à savoir avec le SPD, pour former une coalition. On a appris très tard hier soir que cette coalition disposerait d'une majorité en siège et qu'un troisième partenaire, les Verts par exemple, ne serait pas nécessaire. On se connaît bien entre chrétiens et sociaux-démocrates, puisqu'ils ont gouverné ensemble durant 3 des 4 législatures de l'ère Merkel. Ce matin, des responsables CDU soulignaient l'esprit de responsabilité du SPD, on a l'impression d'un appel du pied. Ce dernier, même affaibli, devrait vendre cher cette participation à une nouvelle coalition et pousser ses sujets phares comme une augmentation du SMIC ou une réforme du frein à la dette. Les baisses d'impôts massives, en revanche, proposées par la CDU passent, elles, moins bien auprès du SPD. Sur le dossier migratoire, un compromis est possible, comme sur l'augmentation des dépenses de défense. Olaf Scholz, en tout cas, ne mènera pas ces négociations, il l'a déjà annoncé, et il a aussi dit qu'il ne sera pas membre d'un gouvernement Merz. Le futur chancelier, lui, veut aller vite et espère que sa nouvelle équipe sera en place d'ici Pâques.
Alors, ces élections, c'est aussi un nouveau coup dur pour les Verts. Grand mouvement en Allemagne, mais qui perd des voix élection après élection.
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de défaites électorales l'an dernier. Les Verts espéraient remonter la pente lors de cette campagne grâce à leur candidat, l'actuel ministre de l'économie et du climat, Robert Habeck. Finalement, eh bien, le score est inférieur à ce que prédisaient les derniers sondages. Robert Habeck, ce matin, a annoncé qu'il n'exercerait pas de fonction dirigeante au sein de son parti à l'avenir. Les écologistes donc vont donc se tourner vers une cure d'opposition.
Et puis il y a donc un autre événement marquant, bien sûr, c'est la place de l'extrême droite de l'AFD. Quelle place à l'avenir pour ce parti ?
Alors, le parti arrive en deuxième position. Il a doublé son score par rapport aux dernières législatives de septembre 2021 avec plus de 20% des voix. Mais il restera dans l'opposition malgré ce succès. Il n'a pas d'option de gouvernement. Certes, Friedrich Merz a fait adopter fin janvier une motion anti-immigration Bundestag grâce aux voix de l'AfD. Mais le président de la CDU rejette catégoriquement toute alliance avec l'extrême droite. Ce matin, la présidente de l'AfD, Alice Weidel, tendait la main à la CDU, mais encore une fois, cette main ne sera pas saisie. L'AfD espère en revanche augmenter encore son score et pourquoi pas s'imposer, voire arriver au pouvoir en 2029.
Pascal Thibault, en direct de Berlin. On continue à analyser ces élections et leurs conséquences avec notre invitée, professeure en études germaniques à l'Université Paris 3, co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et l'Allemagne de l'Est. Bonjour Elisa Gudenstein-Mann.
Bonjour.
L'AfD et les conservateurs ont en commun un discours très dur sur l'immigration. Pascal Thibault nous rappelait que Friedrich Merz avait fait appel à l'extrême droite il y a quelques semaines pour faire voter un texte sur le sujet. Est-ce que ça, selon vous, c'est quelque chose qui peut être amené à se répéter, même si l'AfD ne fait pas partie du gouvernement ?
Alors ça pourrait se répéter, oui. En fait, pour être exact, Friedrich Merz n'a pas vraiment fait appel à l'AfD. Il a proposé un texte en disant un peu « votera qui voudra ». Et en se cachant derrière le fait qu'il y avait une phrase sur la lutte contre l'extrême droite, mais évidemment ça n'empêche pas l'AfD de voter, il savait très bien que l'AfD voterait. Mais il ne s'est pas tourné vers l'AfD pour faire passer un texte, c'est quand même un petit peu différent. Donc je pense qu'il pourrait se produire à l'avenir comme ça des alliances de circonstances, c'est jamais complètement exclu, mais ce ne sera pas une stratégie délibérée du chancelier.
Ce matin, le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung écrit que les conservateurs et les sociodémocrates n'ont pas d'autre choix que s'entendre, sous peine d'arriver à une confrontation avec le populisme. A priori, c'est la voie qu'a choisi Friedrich Merz, hein, puisqu'il exclut une alliance avec l'AfD. Vous êtes d'accord avec cette analyse de la presse ? C'est la dernière chance des partis dits traditionnels ?
Oui, je suis d'accord avec l'idée qu'ils n'ont pas le choix, qu'il va falloir qu'ils s'entendent. Friedrich Merz espérait avoir le choix du partenaire entre les Verts et les sociaux-démocrates, mais gouverner avec les Verts ne sera pas possible, il n'y a pas assez de sièges à eux deux. Donc en effet, les sociaux-démocrates sont obligés de trouver un compromis avec les chrétiens-démocrates et la question est de savoir sur quoi les uns et les autres vont faire des compromis pour arriver à ce compromis, mais en sachant qu'ils sont prisonniers tous les deux, si on veut une Allemagne stable, gouvernée par des partis démocratiques, il n'y a que ça qui est possible. Donc c'est un peu l'enjeu de des semaines à venir là. Quel prix vont faire payer les sociaux-démocrates pour accepter d'apporter à la CDU leur soutien ?
Après une campagne qui a été particulièrement dure pour l'Allemagne, oui. Est-ce que les sociaux-démocrates ont intérêt à faire partie de nouveau d'un gouvernement ?
Alors, ça c'est une question qui divise un peu, c'est-à-dire intérêt, ça dépend. Enfin, pour un parti, l'intérêt est toujours d'être au pouvoir, a priori, plutôt que dans l'opposition, pour pouvoir mener à bien certaines réformes importantes. Mais on a vu là très clairement dans le résultat de ces élections que les partis sont abîmés un peu aussi par la pratique du pouvoir et notamment par la pratique de coalition, c'est-à-dire le fait de devoir chercher systématiquement des compromis, de devoir avaler des couleuvres parfois. Et ça, à part les Verts qui s'en sortent pas trop mal, mais les libéraux sont carrément plus au Bundestag et le SPD fait un score catastrophique par rapport à... Enfin, qui rendrait envieux les socialistes français, mais qui est très mauvais pour l'Allemagne. Donc ça montre aussi que, et là, c'est un risque un peu pour les sociaux-démocrates, si à nouveau ils gouvernent dans une grande coalition, c'est pas quelque chose qui est très bon pour eux. Mais en même temps, ne pas gouverner du tout, c'est pas non plus ce qui est souhaité au sein du parti. Donc c'est un peu difficile de répondre par oui ou par non, en fait. Ça va dépendre du prix que vont faire payer les sociaux-démocrates, leur participation, leur soutien à Friedrich Merz.
Et est-ce que cette usure, elle se fait sentir au sein aussi de l'électorat allemand ? Est-ce que c'est pour ça qu'on voit des partis populistes émerger, par exemple ?
Alors, c'est une des causes. Il y a aussi des questions plus conjoncturelles. L'Allemagne n'est pas habituée à la récession économique et là, elle se retrouve dans une situation économique difficile et elle a une difficulté plus générale à inventer l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est plus possible, le miracle économique allemand, les voitures, les exportations, l'énergie illimitée et pas chère, tout ça, ça n'est plus possible. Comment on se réinvente ? Comment on imagine l'après ? Donc, il y a une difficulté là, une angoisse un peu existentielle qui se traduit en termes de chômage. Il y a aussi les attentats. Ça, c'est quelque chose de nouveau. L'Allemagne ne connaissait pas. Donc, il y a un besoin de protection, je pense, de la part de l'électorat. Et une prise de conscience que la politique ne les a pas beaucoup justement protégés contre ces risques de l'existence, et en particulier à l'Est, une prise de conscience que la démocratie n'a pas tenu toutes ses promesses en matière d'égalité des chances, par exemple.
On observe une vraie différence entre l'ancienne Allemagne de l'Est et celle de l'Ouest.
Oui. Ben là, on le voit tout de suite sur la carte de l'AFD, par exemple. C'est clairement, ils sont partout à plus de 30% à l'Est. Mais si on regarde les cartes, oui, les Allemands de l'Est sont sous-représentés dans toutes les positions importantes en Allemagne. Ils sont 20% de la population. Et dans les sciences, c'est seulement 4,3% des chercheurs. Dans les médias, seulement 8%. Dans la justice, les juges fédéraux encore moins, 2,1% d'Allemands de l'Est. Il y a 108 universités en Allemagne, une seule est dirigée par une femme, une Allemande de l'Est, en l'occurrence c'est une femme, mais une seule et 107 personnes de l'Ouest. Enfin, vous voyez, on pourrait donner plein de chiffres, mais les salaires sont toujours pas les mêmes 35 ans après. Les droits de succession, c'est 98% payés par, à 98% payés par des Allemands de l'Ouest, seulement 2% par des Allemands de l'Est. Donc il y a encore des inégalités criantes, et le mandat qui était donné à la démocratie en 90 de créer de l'égalité des chances n'a pas été tenu. Donc ça explique aussi ce manque d'adhésion à la démocratie, en tout cas à cette forme-là de démocratie, c'est-à-dire représentative, où on vote tous les 4 ans. Et donc les gens se tournent vers des partis qui promettent, qui font de fausses promesses.
Des partis qui disposent de quelle capacité de blocage, puisqu'on a dit qu'a priori l'AFD ne ferait pas partie du gouvernement. Est-ce que, à l'inverse, elle est en mesure d'empêcher la future coalition au pouvoir?
Normalement, non. Normalement, elle ne devrait pas pouvoir. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle ne pourra pas faire grand-chose. Elle va avoir beaucoup plus de députés, plus d'argent. Enfin, voilà. Donc, c'est inquiétant pour la démocratie, mais elle ne peut pas bloquer les choses. Le risque principal, là, c'est qu'elle arrive peut-être au pouvoir dans certains Länder de l'Est, parce qu'il y a des élections régionales. Mais en tout cas, au niveau national, non, elle sera juste la première force d'opposition, ce qui n'est pas négligeable en soi, hein, mais elle devra se contenter de ce rôle de première force d'opposition.
Alors, l'un des dossiers majeurs pour le futur chancelier, en plus de la situation économique du pays, c'est la guerre en Ukraine. Friedrich Merz avait beaucoup critiqué Olaf Scholz quand il était dans l'opposition. Il le jugeait trop timoré, pas assez engagé. Est-ce que vous pensez qu'il va mettre en place une politique réellement différente une fois au pouvoir?
Ça, c'est très difficile à dire aujourd'hui. Donc, en effet, quand il était dans l'opposition, il reprochait de pas assez soutenir l'Ukraine. Est-ce qu'il va pour autant mettre encore davantage d'argent? C'est pas sûr, parce qu'il va avoir 1000 dossiers sur son bureau, là, et il va falloir faire des arbitrages financiers et puis tenir compte aussi du partenaire. Donc, je pense que c'est vraiment très difficile de répondre aujourd'hui à cette question-là. Mais en tout cas, c'était une volonté affichée. Est-ce que ça va se traduire dans les faits? Bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui.
Je vous remercie, Elisa Gudenstein-Mann, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure en études germaniques à l'Université Paris 3 et co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et l'Allemagne de l'Est. Merci.
Merci, au revoir.
Friedrich Merz apparaît en une de toute la presse européenne aujourd'hui, à commencer par la presse allemande, bien sûr. Enfin, un chancelier prêt à prendre des risques, c'est bien, écrit Die Zeit. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung s'interroge, lui, sur le parcours semé d'embûches vers le rouge, la couleur du Parti Social-Démocrate, et le noir, celle du Parti Conservateur, du futur chancelier. Le journal rappelle ce qu'il considère être le message de la soirée d'hier. Ça sera difficile et pourtant il faut aller vite. La mission de Friedrich Merz, composée donc une coalition. Friedrich Merz, un has-been, comme l'écrit Libération, qui tient enfin sa revanche sur Angela Merkel. Partout dans la presse européenne, un autre sujet s'affiche aussi en une, c'est cet anniversaire, 3 ans de guerre en Ukraine. Après avoir mené pendant 3 ans une guerre juste contre l'agression de Poutine, écrit The Guardian, nous sommes maintenant confrontés avec Donald Trump à une paix injuste. Mais le journal prévient, Poutine joue sur le long terme. Tel un maître du judo, il use ses adversaires jusqu'à ce qu'ils craquent, puis il revient à la charge. Il ne s'arrêtera pas là. Trump déchire les normes mondiales, commente la BBC. Dans les capitales européennes, on a l'impression qu'il a jeté ses 2 cartes essentielles, l'isolement de la Russie et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, avant même le début des pourparlers, et ce, sans aucune condition préalable.
RFI, l'Europe à midi.
La méfiance donc de la presse européenne, alors que les dirigeants du continent, eux, veulent marquer aujourd'hui leur soutien à Kiev. D'ailleurs, l'Union européenne annonce une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros. Ils sont une douzaine en tout, de chefs d'État ou gouvernement occidentaux dans la capitale ukrainienne où l'on a entendu des sirènes d'alerte ce matin. Devant eux, devant ses dirigeants, Volodymyr Zelensky a indiqué que les discussions sur les minerais ukrainiens étaient désormais dans leur phase finale avec les États-Unis. Et puis il a lancé un message.
Chers amis, cette année devrait être celle du début d'une paix réelle et durable. Poutine ne nous offrira pas cette paix. Il ne l'échangera pas contre quoi que ce soit. Nous devons parvenir à la paix par la force, la sagesse et l'unité, grâce à notre coopération avec vous.
Et l'on retrouve tout de suite notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz. Vous êtes en direct de Kiev. 3 ans de guerre donc, de bombardements, de restrictions. À quoi ressemble le quotidien aujourd'hui pour les Ukrainiens ?
Eh bien écoutez, le quotidien des Ukrainiens à Kiev notamment, il peut se dérouler dans une relative normalité et puis il va y avoir ces alertes aériennes que vous avez mentionnées plus tôt. Il y en avait une un peu plus tôt ce matin alors que les dirigeants européens, nombre d'entre eux sont dans la capitale européenne. Je pense à Ursula von der Leyen, au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ils sont là pour assurer l'Ukraine de leur soutien, mais pas seulement, aussi pour discuter de garanties de sécurité supplémentaires à l'heure où Washington semble se détourner de Kiev et s'aligner sur Moscou. C'est ce qui inquiète les Ukrainiens après 3 ans de guerre, c'est ce revirement de politique américaine, ce revirement de leur allié auparavant le plus fiable. Donc beaucoup d'inquiétudes 3 ans après le début de cette invasion totale, de cette agression totale de l'Ukraine par son voisin russe.
Et quel est l'état d'esprit des Ukrainiens, leur manière de vivre au quotidien au-delà de cette inquiétude sur leur avenir? Comment ça se passe au jour le jour?
Eh bien écoutez, ils essayent de continuer d'avoir une vie à peu près normale, c'est-à-dire que le métro fonctionne, les gens vont au travail, ils tentent de vivre normalement, mais bien sûr, il y a quelques heures de route seulement de la capitale, par exemple, eh bien c'est la ligne de front, une ligne de front qui est bien plus proche d'autres grandes villes, je pense à Kharkiv, je pense également à Dnipro, bien plus près de la région de Donetsk où se déroulent des combats intenses, notamment dans le secteur de Pokrovsk. Donc tout le monde ici connaît des proches sur la ligne de front. Beaucoup de familles sont endeuillées après 3 ans de guerre. Donc, il y a un sentiment d'épuisement et puis aussi un peu de désillusion. C'est un peu ce sentiment de tout ça pour ça, si maintenant une paix était négociée sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine.
Alors, vous nous l'avez rappelé, il y a des combats qui sont très intenses dans l'Est et dans le Nord-Est du pays. L'Ouest est un peu plus préservé, même s'il y a aussi des bombardements, hein, bien sûr, il faut le dire. Est-ce qu'il existe un décalage au sein de la population dans la manière de vivre la guerre ?
Alors, il y a forcément un décalage entre ceux qui vivent, par exemple, dans une ville comme Kharkiv, qui va se retrouver à 30 km de la frontière russe, donc aussi à la merci des bombes planantes, des explosions beaucoup plus fréquentes. Mais comme vous le soulignez, en fait, ces attaques, elles peuvent se produire n'importe où, même dans l'ouest du pays, qui est certes plus épargné, mais qui n'est pas non plus à l'abri de telles frappes. Et je rappelle qu'il y a 24 heures, l'Ukraine a essuyé la plus grande frappe de drones lancée par la Russie contre le pays. 267 drones. Rendez-vous compte, donc la plupart ont été abattus, interceptés ou déroutés, mais il y en a quand même 6 qui ont réussi à s'écraser sur leur cible, et ça veut dire qu'il y a des dégâts matériels, il y a des blessés, il y a parfois des morts, donc c'est un quotidien qui affecte tous les Ukrainiens sans exception.
Emmanuel Chaz, en direct de Kiev, correspondante de RFI en Ukraine. 3 ans de guerre donc, des incertitudes très grandes sur l'avenir, sur l'appui militaire à l'Ukraine. Et puis un soutien populaire aussi qui s'essouffle dans certains pays, en Pologne par exemple, voisine de l'Ukraine et qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés en proportion de la population. On entend de plus en plus de voix critiquer l'aide apportée aux Ukrainiens et certains politiques surfent même sur la vague pour dénoncer le poids qu'il ferait peser sur l'économie. Pourtant, dans la région de Basse-Salésie, on constate exactement l'inverse. Reportage de notre correspondant Adrien Sarla dans la petite ville de Wawa.
Comme tous les week-ends depuis 3 ans, la communauté ukrainienne de Wawa se retrouve dans une petite salle prêtée par la mairie pour tisser des filets de camouflage destinés à leurs soldats. Un rituel auquel Ina tient beaucoup.
Ici, on peut aussi se boire un thé ou un café et papoter ensemble. On a aussi des psychologues ou des avocats, des spécialistes des permis de séjour qui viennent donner des conseils et aider les réfugiés. C'est important de s'entraider entre Ukrainiens quand on est dans un pays étranger.
Tous se disent très bien intégrés à la société polonaise, mais dernièrement, ces rendez-vous ont aussi été l'occasion d'échanger sur leurs inquiétudes grandissantes avec d'autres membres de la communauté. Après 3 ans de guerre, Olga et ses amis assistent impuissantes au changement d'attitude des Polonais à leur égard.
Aujourd'hui, les Polonais ont une image très négative des Ukrainiens, car ils ont l'impression qu'on leur vole leurs allocations. Mais nous aussi, on travaille ici, on paye des impôts, et c'est profitable pour l'économie polonaise que nous, les Ukrainiens, nous soyons actifs dans le pays.
Un sentiment anti-ukrainien sur lequel surfent les responsables politiques. À 3 mois des élections présidentielles, les candidats de tous bords promettent de ne plus accorder d'allocation familiale qu'aux parents ukrainiens qui ont un emploi, alors que tous en bénéficiaient sans condition jusqu'ici. Selon eux, la mesure permettrait d'économiser jusqu'à 144 millions d'euros par an. Wutsia est chargée des affaires sociales à la mairie d'Owawa et travaille en collaboration étroite avec la communauté ukrainienne de la ville. Malgré les bonnes relations qu'elle entretient avec eux, la fonctionnaire avoue comprendre la proposition faite par Rafał Trzaskowski, le candidat de tous à la présidence.
Certains parents ukrainiens recevaient 200 euros par enfant alors qu'ils étaient déjà de retour en Ukraine. Ce genre de cas est tellement répandu que personne n'est en mesure de le quantifier. Or, le rôle du gouvernement est de limiter les dépenses inutiles. Mais si les parents travaillent en Pologne, y élèvent leurs enfants, les envoient dans nos écoles ou dans nos crèches polonaises, personne ne leur retirera cet argent.
Comme elle, plus de 96% des Polonais sont en faveur de la réduction, voire de la suspension des aides aux réfugiés ukrainiens qui profiteraient du système. Mais la région industrielle de Basse-Silésie est connue pour être un bassin d'emploi porteur qui nécessite de la main-d'œuvre, quelle que soit son origine.
On est au cœur de la zone industrielle. Et là, vous voyez cette usine ? Elle fait partie de celles qui emploient beaucoup d'Ukrainiens.
Katarzyna connaît la zone industrielle de Wawa comme sa poche. Depuis 10 ans, elle aide les Ukrainiens à trouver du travail dans les usines aux alentours grâce à son agence de recrutement. Selon elle, il représente aujourd'hui près d'un tiers des employés de la zone industrielle à des postes souvent difficiles, boudés par les Polonais. La majorité de ceux qu'elle aide entament ensuite les démarches pour obtenir la nationalité polonaise.
J'ai vu à quel point la Pologne s'est développée grâce à eux. Ils travaillent avec nous, ils ouvrent leurs propres entreprises, ils achètent des maisons, des appartements. Ils font partie de notre société, dans notre région. Et je ne pense pas qu'ils représentent une quelconque charge pour les Polonais.
Depuis qu'elle est arrivée en Pologne avec ses 5 enfants, Nina a justement tout fait pour ne pas représenter une charge dans son pays d'accueil. Mais avec un salaire de 700 euros et un loyer de 950, les allocations familiales sont indispensables à sa survie et à celle de ses enfants, avec qui elle ne s'accorde qu'une soirée par semaine, le vendredi.
Je ne peux même pas compter sur les doigts d'une main le nombre d'emplois que je cumule. En plus de mon travail officiel, je fais des ménages, je prépare des plats à la demande, je travaille dans les jardins. Le soir, quand je rentre, les enfants dorment déjà. Et quand je repars le matin, ils dorment encore.
Pour l'instant, elle ne se sent pas menacée par ses promesses de campagne grâce à son travail. Mais quoi qu'il arrive, Nina et ses enfants ont déjà fait leur choix. Même si la guerre venait à s'arrêter, c'est en Pologne qu'ils vivront le reste de leur vie.
Un reportage de notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla, à retrouver ce soir dans l'émission Accent d'Europe, à partir de 19h10, temps universel. Et juste après le prochain journal, dans 20 minutes, nous retrouverons nos envoyés spéciaux en Ukraine pour une édition spéciale en direct de Kiev, où vous nous attendez, Andréane Mellard. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner et bonjour à tous, à toutes et tous. Nous sommes toujours en direct, oui, du Café Cupidon de Kiev, la capitale ukrainienne, sous un très beau soleil aujourd'hui et où se trouvent depuis ce matin dirigeants européens, canadiens, représentants, car ce 24 février marque le 3e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, alors que la guerre se poursuit avec nos invités dans la prochaine demi-heure. Eh bien, on va parler de l'Europe. Comment l'Europe peut-elle peser aujourd'hui face à un Donald Trump qui se tourne pour l'heure et seul vers Moscou. On va aussi parler de Volodymyr Zelensky, écarté de ses discussions sur l'avenir de son propre pays. Que pensent les Ukrainiens de toute cette situation? Comment réagissent-ils aux critiques émises contre leur président, dont le mandat s'est officiellement achevé en mai dernier, lui qui reste le visage, l'incarnation de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe qui a débuté donc il y a 3 ans. On en parle, on s'interroge ensemble ici à Kiev. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Andréane Mellard. Après vous, à midi et demi, temps universel. Ce sera l'actualité africaine avec Nicolas Sûr qui est à mes côtés. Bonjour Nicolas.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez aujourd'hui.
La pression européenne à l'encontre du Rwanda. La Belgique avait demandé des sanctions. Il y avait des réticences côté français et portugais. Eh bien, un accord politique européen a été trouvé. Ce matin, les ministres des Affaires étrangères de l'UE réunis à Bruxelles ont commencé à préparer de premières sanctions contre Kigali. Et puis le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a signé hier un protocole d'accord de paix avec l'une des factions du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. La rencontre a eu lieu à Bissau sous l'égide du président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo.
À tout à l'heure Nicolas Sûr, midi et demi temps universel. Et pour l'heure, on parle musique avec le plus français de tous les Cubains, de retour au pays après 15 ans d'exil. Le musicien Raoul Paz est désormais installé à la campagne et il le chante dans son nouvel album. Entretien au micro d'Olivier Roger.
Yo no sabría caminar bien lejos, si no veo reflejo de tus ojos llenos.
Bonjour Raoul Paz.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très très bien, très bien.
Guerrero Chic, c'est le paysan chic, c'est le titre de votre nouvel album. Un titre qui me semble pas tout à fait anecdotique. Ce Guerrero Chic, c'est vous ou c'est Cuba?
En fait, pour moi vraiment, c'est la place que j'aimerais bien qu'il y a Cuba. La musique cubaine, c'est cette musique, grande musique cubaine qu'on connaît. Parfois, on se rend pas compte que ça vient toujours de la campagne. La campagne, il y a une force énorme, comme pas mal des pays, la musique la plus connue. Aux États-Unis, c'est la country, au Mexique, c'est el corrido. Mais à Cuba, la musique campésine, elle est un peu oubliée. Donc je me sens, maintenant j'habite en pleine campagne, et je me sens cet interlocuteur un peu entre cette musique des campagnes actuelle et le monde. C'est pour ça ce nom de Guajiro Chic.
Justement, cette musique de campagne, vous l'avez redécouverte en rentrant à Cuba? Ou alors, est-ce qu'elle a toujours été là de par votre héritage familial?
Ça a été toujours là parce que mes parents, surtout mon père, ils aimaient beaucoup la musique de la campagne. Mais je me suis rendu compte d'un concert à l'Olympia. On ne trouvait pas une première partie. Mon producteur à l'époque, il m'a dit, tu sais, Bob Dylan, quand il est venu à l'Olympia, il n'y avait pas première partie, il a fait sa propre première partie. J'ai dit, ah, ça me va. Donc j'ai fait ma propre première partie. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que tu dois faire, j'ai dit, mais je vais faire la musique de la campagne naturellement. Et j'ai fait une première partie qui était très bien, c'était même mieux que mon concert après, où j'ai chanté des chansons que j'écoutais quand j'étais enfant de la musique de la campagne. Donc elle était toujours à moi, mais je ne les savais pas vraiment. Et là, ces retours, pour moi, c'était important de revenir aux sources, de voir qui j'étais, qui étaient mes parents, la musique qu'ils écoutaient dans ces régions de l'île. Et c'était une redécouverte en même temps.
Yo pensé alejarme, pero me olvidé que poco decide siempre la razón. Yo no soy tan simple como te conté.
Alors justement, cette musique, Guarira, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que cette musique est toujours vivante dans le patrimoine cubain? Est-ce qu'elle est au contraire en voie de disparition?
Elle est très vivante, mais elle est cachée. Et toute référence à la musique de la campagne à Cuba, c'est une référence avec des vieux codes, où les gens ils sont habillés de façon trop traditionnelle, ils parlent d'une façon. Et ça, c'est dommage, parce que je crois qu'il y a une modernité dans la campagne. C'est la base de beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi la base à Cuba de la musique. Tous les grands groupes, tous les grands orchestres ou les grands interprètes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, tout vient de la campagne.
Vous avez un immense respect pour cette campagne et pour les gens qui l'habitent. J'ai lu quelque part dans votre biographie, à un moment, vous dites, les paysans sont capables de nous parler en alexandrin d'une problématique sociale. Ça, c'est extraordinaire. C'est vous avez un respect pour ces gens
énormément
chics, effectivement.
Oui, parce que finalement, ils sont les vrais chics. Ils sont rudes, ils travaillent dans la campagne, ils ont des mains impressionnantes et tout ça. Comme j'ai dit, ils peuvent contrôler un taureau. Et en même temps, ils se mettent après à la guitare, ils sortent des mélodies hallucinantes et ils improvisent avec une poésie qu'ils ne savent même pas l'écrire. Quand ils l'écrivent, ils font beaucoup de fautes, mais ils sont capables d'aller chercher une poésie hallucinante. Et j'ai compris que je viens de là, en fait. Tout mon intérêt pour la poésie, tout mon intérêt pour la mélodie, elle vient de là. Et ça, je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. Mais elle vient de là, cette façon simple, mais très belle de faire les choses.
Merci beaucoup pour cette
interview. Merci à vous.
La cosa no es que tú pienses y que yo diga.
Raoul Paz, au micro d'Olivier Roger pour la sortie de son nouvel album. Restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans 30 secondes pour le journal. La cosa nunca son ni será ni termina.
Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi les chouettes effraient?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Leur aspect fantomatique, leur vol furtif, leur chuintement allié à un regard perçant alimentent toutes les superstitions. Comment mieux connaître ces oiseaux de nuit au comportement si proche du nôtre? Pourquoi les chouettes effraies sont très chouettes?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.